Philippe, 16 novembre 1983 à Saint-Joseph.
J'ai toujours dans les points de départ de la philosophie de petites questions. Pouvez-vous réfuter pourquoi nous ne pouvons pas prendre l'angoisse comme point de départ philosophique? Bon, je vous avais dit la dernière fois, si vous voulez, que l'expérience au sens fort, l'expérience qui implique l'intelligence liée au sens externe, donc l'intelligence qui en définitive passe par le toucher, parce que le toucher c'est le sens le plus réaliste qui soit, tous les autres sens impliquent un certain toucher, mais un toucher moins immédiat. Donc c'est bien l'intelligence liée au toucher qui nous permet de comprendre ce que représente l'expérience au sens le plus absolu qui soit, où je découvre une réalité autre que ma propre connaissance ou mon amour. Je découvre l'autre. Très important de savoir quand on découvre l'autre. L'enfer, c'est l'autre. Est-ce que Sartre, quand il a dit ça, a-t-il découvert l'autre? Non, parce qu'il n'a pas découvert l'enfer. Donc, il n'a pas découvert l'autre. C'est très curieux. Ce serait très intéressant de uniquement par cette affirmation de Sartre, l'enfer c'est l'autre, découvrir tout Sartre. Parce que ça c'est le fruit hein, de toute une philosophie, l'enfer c'est l'autre. C'est une projection imaginative qui fait que le dépassement de soi est la destruction de soi. C'est ça que ça implique. L'enfer, qu'est-ce que c'est symboliquement hein? Vous comprenez bien, Sartre n'a pas l'expérience de l'enfer, ni moi non plus. Et je ne dirai jamais que ma philosophie, je ne parlerai pas de l'enfer dans la philosophie. C'est un terme qui n'est pas philosophique, l'enfer. C'est un terme religieux. L'enfer est donc pris symboliquement. Ce qui détruit. L'autre, c'est ce qui me détruit. L'autre, à la place d'être ce qui m'attire et qui me permet mon dépassement, l'autre, c'est ce qui me montre mes limites. Et donc, ce qui me détruit en manifestant mes limites. Et donc, c'est le moi et l'autre, l'opposition entre les deux. L'opposition dialectique entre les deux. Et l'autre vient montrer les limites. Donc, quand Sartre dit « l'enfer, c'est l'autre », on voit très bien que Sartre ne comprend pas que l'expérience me fait toucher quelque chose de plus grand que moi, que je dois respecter, et qui peut me limiter, mais qui peut aussi être pour moi occasion d'aller plus loin. Ça peut être un sycomore, l'autre. Et quand Zaché montait dessus, c'était l'autre, n'était pas l'enfer. C'était le seuil du ciel. C'est vrai, l'autre. C'est celui dont on peut se servir pour aller plus loin. C'est très important, mais des petites phrases comme ça, parce que ce sont des petites clés qui montrent très bien combien Sartre est totalement enfermé dans l'immanence. Celui qui met l'absolu dans l'immanence, nécessairement, l'autre vient le déloger de son immanence, vient détruire son immanence. Et en détruisant son immanence, il détruit son moi. Donc c'est bien l'enfer. Tandis qu'au contraire, si vous comprenez que l'immanence, ce n'est pas la perfection de la vie de l'intelligence, L'immanence est la perfection de la vie du vivant. Mais l'intelligence a la capacité d'atteindre l'autre. Et c'est l'intelligence. Et seule l'intelligence permet d'atteindre l'autre. Le point de vue vital, comme tel, non, il assimile. Un vivant, il assimile. Un boa, il assimile. Ne soyez pas sur son chemin. Parce que si vous êtes sur son chemin, il vous assimile. Et le propre du vivant, c'est ça, il assimile. Il assimile tout pour lui. Il ne respecte pas l'autre. En l'assimilant, il ne le respecte pas, il le ramène à lui. Alors si le point de vue de l'immanence est premier, l'autre est insupportable. Il est insupportable, il est l'enfer, symbolique de l'enfer. Oui. Alors, il faut bien saisir, quand on dit que l'expérience me fait saisir l'autre, je montre comment l'expérience, c'est l'intelligence qui se sert des sensations. C'est l'intelligence qui, dans ce qu'elle a de plus elle-même, est capable de se servir des sensations pour atteindre une réalité qui me dépasse. L'expérience, point de départ de la philosophie, me met tout de suite en contact avec l'autre. Le premier transcendant que je saisis. La première transcendance que je la saisis par l'expérience. Et c'est très important. L'autre, c'est toujours le premier transcendant. Il aura des modalités différentes, mais l'autre, par le fait même, c'est celui que je ne peux pas ramener à moi. Si c'est celui que je ne peux pas ramener à moi, il me dépasse. C'est pour ça que celui qui me dépasse peut m'inquiéter. Hein. Peut m'inquiéter, celui qui me dépasse. Alors, vous voyez bien, l'autre comme tel peut être source d'admiration. Je découvre l'autre, il est source d'admiration. Ou il peut être source d'angoisse, c'est très vrai. L'autre comme tel, l'autre existant. Donc, l'autre au sens absolu, c'est toujours l'autre existant. Tandis que le même, la philosophie de Platon, même la philosophie de l'autre. On vient toujours à ça. Fondamentalement, vous avez une philosophie même qui est la philosophie de l'immanence. Vous avez la philosophie de l'autre qui est la philosophie de l'expérience. Le même, c'est l'immanence. Vous restez dans le même. Et l'autre, c'est ce qui transcende. Ce qui dépasse. Ce qui va plus loin. Quelque chose qui me dépasse, qui va beaucoup plus loin dans le transcendant. Tandis que le même, je demeure en moi. Bon. Une fois que je découvre l'autre, qui me transcende, il peut être pour moi source d'admiration. Dans la mesure où il me transcende. Dans la mesure où il me transcende, je suis en face de lui comme en présence de quelqu'un ou de quelque chose que j'admire, puisqu'il me transcende, il me dépasse. Mais ce qui me transcende peut être aussi source d'angoisse. Parce qu'il peut me terrifier. Je peux en avoir peur. Et petit à petit, quand l'expérience première disparaît, une mise entre parenthèses, l'oubli de l'expérience fait que ce qui me terrifie aboutit à l'angoisse. Il ne faut jamais l'oublier. L'angoisse, c'est l'expérience première qui est oubliée. Vous avez peur du gros chien. Vous êtes terrifié de l'autre en tant qu'il vous dépasse. Vous oubliez l'expérience par laquelle vous avez touché l'autre. Vous l'oubliez, un oubli de l'expérience. Ça vient vite, un oubli de l'expérience. On peut dire qu'à partir de Descartes, il y a l'oubli de l'expérience. C'est pour ça que la philosophie de l'oubli de l'expérience aboutit à l'angoisse. Je crois que c'est la meilleure définition pour nous de découvrir ce que c'est que l'angoisse. C'est la mise entre parenthèses de l'expérience. J'oublie, ce par où j'ai touché l'autre, l'autre qui me transcende. Alors je ne suis plus qu'en face de quelque chose qui me dépasse complètement, que je vis intérieurement, hein, que je vis intérieurement. Parce que c'est quelque chose qui me dépasse complètement, et parce que ça me dépasse complètement, je ne suis plus moi. C'est la perte du moi en moi, c'est la perte du même, c'est la perte de ma propre identité. Je ne sais plus ce que je suis. Et c'est parce que je ne suis plus ce que je suis angoissé. Si vous saviez ce que vous étiez, mais vous ne seriez pas angoissé. Et vous savez ce que vous êtes dans la mesure où vous affrontez à l'autre, même l'autre qui vous transcende. Et alors c'est l'admiration. Alors vous voyez l'angoisse, hein, il faut bien saisir ce que c'est que cette philosophie de l'angoisse, ce que représente cette angoisse. C'est lorsque, de fait, j'ai oublié l'expérience première, il y a une discontinuité, l'expérience première est mise entre parenthèses, et l'immanence affective intérieure prend tout. Je suis terrorisé, angoissé. Et l'angoisse, c'est plus que terrorisé. Quelque chose de plus, parce que je ne vois plus comment je peux me ressaisir. Et c'est ça qu'il y a dans l'angoisse, quelque chose d'effrayant. On est enlisé. On ne voit plus comment on peut se ressaisir. Tant qu'on voit comment on peut se ressaisir, on touche le roc, ou on tient le roc, on tient à quelque chose qui m'empêche de disparaître. Tandis que le jour où je ne vois plus, alors, je ne suis livré à tout. Puisque je me perds. Je suis perdu à moi-même. L'expérience de l'autre me fait comprendre ce que je suis. Toujours. C'est en m'affrontant à l'autre que je sais ce que je suis. Le jour où l'autre est mis entre parenthèses, l'expérience de l'autre est mise entre parenthèses, je ne sais plus qui je suis. Et j'entre dans l'angoisse. Vous voyez ? C'est complexe à l'origine de l'angoisse, mais c'est toujours la perte de l'expérience. C'est en ce sens-là que revenir à l'expérience, redécouvrir l'expérience des sens externes, me fortifie contre l'angoisse. Ça me fortifie contre l'angoisse. Qu'est-ce qui me fortifie contre l'angoisse ? C'est ce réalisme des sens externes. Et ça, c'est très très net, hein ? C'est que j'ai perdu l'expérience première depuis Descartes, depuis Occam, et nous en voyons les fruits aujourd'hui, la philosophie de l'angoisse. C'est né progressivement, c'est pas né d'un seul coup. Ça va progressivement. Et alors c'est l'affectivité qui l'emporte, parce qu'il n'y a plus de connaissance. Le développement de l'intelligence lutte contre l'angoisse. Et le développement et l'attention au sens externe luttent contre l'angoisse. Vous voyez, vous avez deux manières de lutter contre l'angoisse. Vous avez le développement de l'intelligence. Donc la philosophie première lutte contre l'angoisse. Et vous avez l'expérience. Vous revenez à l'expérience. Alors quand on est angoissé, ce n'est pas commode de faire de la philosophie première. Hein. Alors on peut revenir à l'expérience. Et c'est là où l'expérience nous aide, une simple petite expérience. Ça peut nous aider beaucoup. Prendre une douche, l'expérience, ça peut nous aider. Si on a le courage de le faire, si on peut le faire encore, il faut le travail manuel, quelquefois ça nous aide. Pas toujours, mais c'est trouver chacun. J'ai trouvé chacun la porte par où on sort et on revient à l'expérience. Il y a multiples manières de revenir à l'expérience. Il n'y a pas qu'une seule manière. Et c'est pour ça qu'il y a des angoisses différentes. Au fond, l'angoisse, on dit toujours l'angoisse, hein, mais elle est spéciale pour chacun. C'est l'angoisse de tel individu. Ce n'est pas l'angoisse de façon abstraite. Il n'y a rien d'abstrait dans l'angoisse. C'est ça qui est terrible. Il n'y a rien d'abstrait. C'est côté affectif. Mais ce qui est sûr, c'est que l'angoisse vous coupe du monde extérieur. Ça, c'est commun à toute angoisse. Ça vous coupe du monde intérieur. Et ça vous plonge, non pas dans le même, c'est pas la philosophie du même, c'est pas l'immanence, c'est une fausse immanence. C'est une fausse immanence qui fait que vous ne voyez plus et vous ne pouvez plus prendre contact avec quelque chose qui pourrait vous sauver. Alors, il faut redécouvrir les deux aspects. Vous voyez, la philosophie première, ça vous aide parce que ça développe l'intelligence. Et que sûrement que le développement de l'intelligence diminue l'angoisse. Ça diminue l'angoisse. Le développement de l'intelligence augmente la sensibilité, augmente l'affectivité, et donc peut-être source d'une plus grande angoisse, c'est bien évident. C'est sûr. Mais ça peut être aussi le salut, comme toujours. Alors, le salut le plus immédiat, c'est l'expérience. Revenir à l'expérience, d'une manière ou d'une autre. Bon. Alors, la question posée, pourquoi je ne peux pas commencer la philosophie par l'angoisse? C'est évident que, quand il s'agit de Heidegger, quand il s'agit de Kierkegaard, on n'entre en philosophie que par l'angoisse. Alors, tous ceux qui ne sont pas angoissés, vous n'êtes pas encore en philosophie. Je vous ai dit, j'ai vu à Fribourg quelqu'un que j'aime beaucoup, un bon petit matheux. Ça frôle les matheux. Ça doit très bien arriver. Il y a des angoisses mathématiques, c'est évident. Il y a des angoisses mathématiques qui sont des angoisses très particulières, les angoisses mathématiques. C'est coupé d'expérience. Le mathématicien peut être un planeur merveilleux, tu vois, et il peut tomber dans l'angoisse. C'est sûr. Il y a des types dans... Et alors, ce garçon voulait entrer à tout prix dans la métaphysique, à tout prix. Alors, il s'est mis dans l'angoisse. Heureusement, je le connaissais avant. Alors, il a pu venir. On a essayé de lutter. On a lutté pied et main à chaque instant contre cette angoisse, pour sortir de cette angoisse. Il était persuadé qu'il n'entrerait en métaphysique que par l'angoisse. Alors, pourquoi Heidegger dit-il qu'on doit entrer en métaphysique par l'angoisse? Pourquoi Kierkegaard dit-il qu'on entre en philosophie par l'angoisse? Il faut se demander pourquoi, pour pouvoir ensuite montrer que c'est faux. J'entre d'abord dans le système qui me dit. Heidegger dit qu'on entre en philosophie par l'angoisse, c'est très net. Les étangs. Et qu'est-ce qui va nier les étangs? La négation des étangs, c'est l'angoisse. Or, il faut que les étangs disparaissent, soient comme néantisés par l'angoisse, pour que là-dessus apparaisse l'être. L'angoisse, c'est le bulldozer des étangs. Alors, les étangs disparaissent devant l'angoisse, et c'est vrai, les étangs disparaissent totalement. Et là, apparaît l'être. La négation, l'affirmation, d'où apparaît la synthèse d'être. C'est plus le devenir. C'est une dialectique toute nouvelle. C'est une dialectique toute nouvelle, ce n'est pas la dialectique hegelienne, et ce qu'on dit, c'est encore la dialectique hegelienne prise dans un sens tout à fait différent. Donc, on se sert de l'angoisse pour supprimer les étangs. Alors, vous comprenez qu'à ce moment-là, les étangs, c'est le fruit, non pas de l'expérience au sens fort, mais c'est la description. Tout ce que je peux saisir, que je peux regarder, je peux le décrire. Je décris les étangs. Et je dis bien, c'est la description. Ce n'est pas du tout l'exister des étangs. C'est justement ce que Heidegger ne veut pas regarder. Et pour Heidegger, vous savez bien, c'est ceci, c'est pas ceci est, mais ça est. C'est le ça. Le esgibt, c'est donné, c'est le donné, c'est le donné. Les étangs, c'est le donné. Le ça. C'est esgibt, c'est ce qui est donné. Le S, l'autre. Ça, c'est les étangs, c'est le donné comme tel. Ce n'est pas du tout le fruit d'expérience. C'est pas un fruit d'expérience. C'est tout simplement quelque chose devant lequel je m'arrête et que je peux décrire. C'est pas l'expérience, mais simplement le mur. Les étangs cachent, arrêtent, empêchent d'aller plus loin. Les étangs, c'est les sciences qui regardent les étangs. Et les sciences donnent une description de ça. Et ce sont des lois, des descriptions. Il faut donc dépasser toutes les sciences pour entrer dans penser l'être. Et la suppression des étangs se fait par l'angoisse. Je suis en face donc de deux états. Affectif, l'état affectif face aux étangs qui considèrent que c'est un mur qui arrête, il faut supprimer ce mur. Et c'est pour ça que je dis le bulldozer. Alors je supprime ce mur par l'angoisse. Et l'angoisse vient supprimer les étangs comme le mur qui va tomber. Et à partir de là, apparaît l'être. Apparaît l'être. Alors évidemment, l'être n'est pas dans les étangs. L'être apparaît ex nihilo. Ça, c'est la réunissance théologique qui est présente chez Heidegger. À partir du rien, l'être apparaît. Et c'est vrai, l'être apparaît à partir du rien. Dieu crée ex nihilo. Alors, c'est à partir du rien que l'être apparaît. Il faut donc annihiler les êtres, les états, pour que l'être apparaisse. Ex nihilo. Et l'être apparaît à partir de là. Vous voyez que cette vision est une vision affective. C'est vrai, c'est une vision affective. C'est qu'il faut se débarrasser de tout ce qui est a priori, de tout ce qui m'est donné, de tout ce qui m'a été donné, des états. Il faut me débarrasser de tout ça et commencer à partir de rien. Et si je commence à partir de rien, l'être apparaît. Cette espèce de nostalgie de la naissance de l'être, de l'apparition de l'être. Nostalgie, vous voyez, c'est très curieux, vous savez, prenez l'analogue avec le point de vue de l'amour dans le banquet. Chez Platon, parce que c'est le mythe, hein. C'est un mythe ça. C'est un mythe, c'est pas ça la réalité, c'est évident. Mais si vous prenez le mythe de l'amour, Eros apparaît à partir de quoi? Il y a la surabondance, et puis il y a la pauvreté. Et l'amour apparaît, Eros. L'amour apparaît à partir des deux. Il faut le lien entre les deux. Il faut les étendre, l'angoisse et le rien. L'angoisse se fait à partir de rien. Il faut les étendre et le rien pour que l'errance apparaisse. Il faut la surabondance et la pauvreté, pénir et errance, pour que l'amour apparaisse. Il y a quelque chose de très semblable, vous voyez, entre les deux. C'est la naissance de l'être au fond. On devrait dire ça, c'est la naissance de l'être que Heidegger cherche. Et la naissance de l'être dans la pensée. L'être va naître dans la pensée. La pensée est comme le lieu dans lequel va naître l'être. Et pour que l'être apparaisse et naisse dans la pensée, il faut cette opposition entre les étangs et l'angoisse. Comme il faut le point de vue de la surabondance et de la pauvreté pour que l'amour naisse. Et cet être qui apparaît, en réalité, je crois très fort que c'est l'amour. Chez Heidegger, amour et être, ça ne fait qu'un. Il n'y a pas de différence entre les deux. Et c'est vrai que l'amour apparaît en fonction des deux. Et alors, en fonction du point de vue des étangs et du rien, l'être va apparaître. L'être va naître. Alors, vous voyez que à ce moment-là, l'angoisse n'est pas quelque chose de premier. L'angoisse est relative aux étangs. Ce n'est pas les étangs qui sont relatifs à l'angoisse, puisque les étangs sont un donné, et l'angoisse doit supprimer ce donné. Donc l'angoisse est quelque chose de second. Le rien vient supprimer les étangs. Et à partir de ce rien qui supprime les étangs, l'être apparaît. Alors, je dirais, premièrement, que l'angoisse n'apparaît pas comme quelque chose de premier. Si l'angoisse n'est pas quelque chose de premier, ça ne peut pas être le point de départ de la philosophie. Et dans Kierkegaard, c'est la même chose. C'est une angoisse plus éthique, plus, beaucoup plus morale. Mais l'angoisse de Kierkegaard, c'est une angoisse morale par rapport au passage de l'éthique à la morale. Mais c'est quelque chose de second, là encore. Ce n'est pas premier du tout. Et c'est pris dans un mouvement dialectique, comme relatif à autre chose. Donc ça ne peut pas être premier. Deuxièmement, la véritable angoisse, normalement, annihile. La véritable angoisse me met dans un état d'infécondité. Je ne peux pas dire que c'est à partir de l'angoisse que je peux devenir source. Non. L'angoisse, c'est quelque chose qui stérilise. Ça arrête. Est-ce que je peux mettre un lien entre l'angoisse et l'interrogation? Parce que toute la question est là. Si je dis expérience, admiration, interrogation, est-ce que je peux mettre un lien entre l'angoisse et le point de vue de l'interrogation? Je ne crois pas du tout. Parce que l'angoisse, c'est la suppression de toutes les déterminations. Si c'est la suppression de toutes les déterminations, il ne peut pas y avoir, à partir de l'angoisse, une interrogation. Je ne peux plus interroger. L'angoisse m'annihile. Donc, je ne crois pas qu'on puisse dire que l'angoisse est le point de départ de la philosophie. Je crois que c'est purement mythique. C'est, au fond, une réminiscence de la naissance de l'amour. C'est très curieux. La naissance de l'amour, la naissance de l'être. Et voir comment l'être et l'amour doivent naître dans mon intelligence ou dans mon cœur. De sorte que je ne crois qu'on ne peut pas dire ça. Donc, je n'insiste pas plus. Continuons, si vous voulez, à bien comprendre ce point de départ de la philosophie. C'est important pour nous. Saisir que l'expérience, donc, l'expérience au sens fort, implique la possibilité d'assumer tous les autres points de départ. Les vrais points de départ, hein. Parce que l'angoisse est un faux point de départ. Les vrais points de départ. Donc, l'expérience externe, l'expérience interne, l'expérience externe implique et assume l'expérience interne. Implique le point de vue de l'intuition, implique le point de vue de l'inspiration, implique le point de vue de l'opinion des autres, implique le point de vue de la conscience. Voilà les points de départ possibles. Tout ça est assumé par l'expérience externe. Autrement dit, l'expérience externe ne les nie pas. Je sais que cette expérience externe va s'achever dans une expérience interne, que cette expérience externe peut très bien s'achever dans une intuition, qu'elle peut très bien impliquer une inspiration, et c'est toujours bon de regarder l'opinion des autres. L'angoisse et la révélation sont deux faux points de départ de la philosophie. Je ne peux pas les assumer au point de vue philosophique. Je ne les assume pas. Je les laisse de côté. Mais tous les autres points de départ sont assumés par l'expérience externe. Et ça, c'est très important. De voir que tous les autres points de départ, je peux très bien. Ah, vous avez une intuition, mais tant mieux. Mais votre intuition, d'où vient-elle? De votre expérience. Retrouvez votre expérience. Votre inspiration, mais tant mieux, vous avez l'inspiration. Il faut toujours être un peu inspiré quand on fait de la philo. Ça va plus vite. Et les jours où on n'est pas inspiré. Mais si on est inspiré, tant mieux. Alors, l'inspiration, très bien, mais essayez de comprendre ce qui est à l'origine de votre inspiration. L'expérience externe. Qui me permet, encore une fois, de toucher l'autre. Donc, l'expérience va être source, effectivement, de l'admiration. J'ai beaucoup à dire sur l'admiration. C'est un but philosophique. C'est l'aspect subjectif de l'expérience. C'est très vrai que quand je suis en face d'une expérience et que en face d'une réalité autre qui me transcende, qui me dépasse, il y a quelque chose qui transcende. Ça éveille en moi une admiration. Je suis en admiration. Quelles sont les conditions pour être en admiration? Pour être en admiration, il faut à la fois connaître et ne pas connaître. Il faut les deux. Il faut une certaine connaissance et il faut quelque chose qui fait justement que je ne connais pas et que je voudrais connaître. Donc, c'est l'état affectif à la fois de celui qui reconnaît qu'il connaît et en même temps qu'il reconnaît qu'il ne connaît pas. Il y a les deux aspects dans l'admiration. Donc, c'est l'aspect affectif. C'est bon de développer son admiration. Il ne faut pas développer trop son admiration. Parce que si vous développez trop votre admiration, vous seriez dans un état d'attente, et puis c'est tout. Ah, oh, comme c'est beau. Vous êtes celui qui dit tout le temps, ah, oh, comme c'est beau. Oui, mais allez un peu plus loin. Tandis que là, ça peut très bien être une espèce d'état affectif. L'admiration va conduire à l'interrogation. Très important. L'intelligence s'éveille dans le côté affectif. Vous voyez, toujours les deux aspects, hein, faut jamais oublier, c'est le sujet qui connaît. Et pour connaître parfaitement, il faut aimer. Et l'admiration me fait aimer cette réalité que j'ai expérimentée. Je l'admire. Vous savez bien que pour une réalité, il faut l'admirer pour l'aimer. Comme une femme à l'égard de son mari. Si elle n'a pas d'admiration, elle ne l'aimera plus. C'est très important. L'élément d'admiration maintient un amour et maintient une interrogation. Il y a une interrogation permanente qui doit demeurer. L'intelligence interroge. Quand l'intelligence interroge, c'est le pli de l'intelligence. C'est ça qu'il faut saisir. C'est le pli de l'intelligence. L'intelligence interroge. Qu'est-ce que c'est que l'interrogation? Là aussi, Heidegger remet très en lumière l'interrogation. Deux grands philosophes de l'interrogation. Socrate, Heidegger. C'est amusant de retrouver ça. On est de plein pied avec tous ces débuts. Et c'est important. Il y a Socrate. Platon n'interroge plus. Aristote se considère comme plus proche de Socrate que Platon. Parce que Aristote interroge. Et Heidegger interroge. Et Merleau-Ponty nous dit que l'idéaliste n'interroge plus. Et que celui qui est en état d'admiration, parce qu'il reconnaît que l'autre, il continue d'interroger. Mais vous voyez, Heidegger étudie l'interrogation, j'allais dire, comme l'aspect suprême de la philosophie. Il n'y a rien de plus grand pour Heidegger que d'interroger. Et l'interrogation prend quelque chose d'absolu. Si l'interrogation prend quelque chose d'absolu, il n'y a qu'une espèce d'interrogation. Et alors on tombe encore, vous voyez, dans un aspect dialectique de l'interrogation. C'est une vision dialectique de l'interrogation, Heidegger. Alors que Socrate et Aristote, c'est une vision de l'interrogation à partir d'expérience. Alors il faudrait dire, deux philosophies de l'interrogation. Une philosophie de l'interrogation à la manière de Heidegger, qui provient d'une dialectique, et une vision de l'interrogation à partir de l'expérience. Et c'est vrai, c'est très vrai. Je crois qu'il y a les deux aspects de l'interrogation. Alors, regardons l'interrogation à partir de l'expérience. On viendra peut-être à la dialectique de l'interrogation après. Pour Aristote, à la suite de Socrate, l'interrogation est absolument nécessaire pour avancer. L'interrogation est à la philosophie ce que l'hypothèse est à la science. Si vous ne posez pas d'hypothèse, vous n'avancez pas. Un scientifique qui ne pose jamais d'hypothèse n'avance pas. Un philosophe qui n'interroge jamais n'avance pas. Vous interrogez, mais interrogez de façon intelligente. Parce que ça, c'est l'éveil de l'intelligence, l'interrogation. L'interrogation, c'est l'intelligence qui veut aller plus loin. C'est le désir profond de l'intelligence. C'est un désir, l'interrogation. C'est l'intelligence en appétit de recherche. C'est une intelligence qui veut aller plus loin. Elle ne peut pas se contenter de l'expérience. C'est le dépassement de l'expérience. Et c'est pour ça que ce dépassement devait se faire par l'admiration. L'admiration était comme un tremplin qui permettait l'interrogation. Mais il y a un dépassement. Au fond, il y a deux pôles très intéressants de la vie de l'intelligence à regarder, par le point de vue de l'expérience et par le point de vue de l'interrogation. L'expérience nous fait coller à la réalité. C'est plein d'expérience qui nous fait coller à la réalité, donc nous fait regarder la réalité. À partir de l'expérience, vous pouvez décrire. Vous pouvez décrire. Mais l'expérience ne peut qu'amener une description. C'est très important de décrire, c'est très important surtout dans notre monde d'aujourd'hui. C'est tout l'aspect phénoménologique qui fait décrire. Je regarde ce qui apparaît. Je regarde le phénomène qui apparaît. Qu'il s'agisse d'une description intérieure ou extérieure de ce qui apparaît à ma conscience, de ce qui apparaît à ma connaissance. Je décris. Pourquoi je ne peux pas rester à la description? Pourquoi, au point de vue philosophique, je suis obligé d'aller plus loin? Je vais plus loin grâce à l'admiration. Parce que grâce à l'admiration, cette réalité expérimentée, je veux la connaître. Je veux aller plus loin que simplement la décrire. Et c'est parce que je veux la connaître que je vais l'analyser. On analyse pour connaître, pour aller plus loin. On analyse pour dépasser la description. Mais l'aspect descriptif, on voit très bien ce que c'est. Bon, c'est toujours très intéressant, la description. Mais au bout d'un certain temps, c'est fatigant. On décrit indéfiniment. Vous pouvez décrire les différentes phases d'une réalité. Vous pouvez très bien décrire les différentes phases d'une réalité. Mais la description me met à la suite de cette réalité et ne me fait pas connaître en profondeur cette réalité. Pour la connaître en profondeur, il faut l'analyser. Et pour l'analyser, il faut interroger. Vous voyez les liens. L'interrogation va me permettre de dépasser la description. Me permettre de quand j'expérimente, je colle au réel, et je colle au réel, je peux le décrire. C'est vrai. Toute expérience me permet de décrire. Si vous êtes très attentif à l'expérience, vous pouvez décrire. Vous pouvez décrire avec mille détails. Si vous êtes un homme d'observation, si vous êtes un homme d'expérience, c'est du reste très bon, hein, de nous apercevoir que la plupart du temps, nous croyons avoir expérimenté quelque chose, et puis nous n'avons pas du tout expérimenté. Nous sommes incapables de décrire. Quand vous expérimentez, vous êtes capable de décrire. Mais la description reste enveloppante. Il faut aller plus loin. Et l'interrogation, c'est l'intelligence qui alors veut se recueillir dans son désir intense de connaître et de connaître la vérité, et donc qui veut dépasser l'expérience. Dépasser ce que représente la description des choses. L'aspect descriptif de l'expérience. Je vais aller plus loin. Je veux saisir la réalité telle qu'elle est. Par l'interrogation, je secoue la réalité. C'est extraordinaire. Je secoue le premier. Et le peu de temps. C'est comme ça l'interrogation. Je secoue la réalité. Quand j'interroge, je secoue. C'est pour ça que vous n'aimez pas d'être interrogé. Parce qu'on vous secoue. On voit s'il y a des trucs qui sont mûrs. Ou bien si vous avez rien de mûr. Hein. Par l'interrogation, on scrute l'intelligence. Un examen. Ça se passe en interrogation. Et vous secouez le premier. Première interrogation, grand silence. Deuxième interrogation, grand silence. Je veux dire, c'est tellement transcendant qu'il y a le silence. C'est évident, il connaît tellement bien qu'il y a le silence. Là, on peut continuer. Hein. Et le silence augmente. En profondeur, suivant que les silences commencent à s'accumuler. Alors vous pouvez, ça, c'est le rôle du professeur qui est un petit peu vache, c'est de faire ça. Alors il fait les yeux, il dit rien. J'interroge. C'est vous à répondre, j'interroge. À ce moment-là, vous ne coopérez pas beaucoup. Hein. Vous interrogez. L'interrogation, ça peut être glacial. C'est l'intelligence à l'état pur qui interroge. C'est extraordinaire. Hein. C'est l'intelligence qui veut son bien quand elle interroge. Il y a les farouches. C'est l'intelligence qui veut la vérité. C'est vrai, une intelligence qui interroge, c'est l'intelligence qui veut la vérité. C'est donc une intelligence tendue vers ce qui est son bien propre, ce qui est sa fin, sa vérité. Alors, on verra les divers types d'interrogations. C'est ça qui est très important. La différence dans l'intelligence, progressivement, il y a deux mouvements dans l'interrogation. Il y a le mouvement de l'intelligence qui, par l'admiration, est tendue et elle veut saisir. Et puis, il y a l'intelligence qui revient à la réalité. Les deux mouvements se tiennent, tu vois.